Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes et à tous, au micro Isabelle Dupuis. Cette semaine, Escale se penche sur le problème des bidonvilles avec Alioune Badian, directeur de programme et projet à ONU Habitat à Nairobi, au Kenya. Phénomène des temps modernes, les villes sont devenues les plus importants foyers de pauvreté au monde. Selon les estimations d'ONU Habitat, à l'heure actuelle, un huitième de la population mondiale vit dans des bidonvilles, des zones urbaines précaires et surpeuplées où tout semble manquer, à commencer par l'accès à l'eau potable et aux infrastructures de base, la salubrité, la sécurité et aussi l'espoir.
C'est un phénomène des temps modernes, pendant que les villes de plus en plus détiennent de 60 à 70% de l'économie mondiale en termes de productivité. Malheureusement, ce sont aussi les foyers de pauvreté les plus grands dans le monde. Et ce sont des foyers qui sont construits sur un idéal d'amélioration de la part des populations qui migrent des zones de conflit, des zones rurales, pour venir dans les villes, d'une part. Et d'autre part, par ce que les villes elles-mêmes génèrent en termes de pauvreté. La ville est un endroit de combat. Rien n'est donné, rien n'est facile. Aujourd'hui, nous en sommes autour de 860 millions de bidonvillois à travers le monde. Je ne dis pas que des efforts n'ont pas été faits. Il faut être objectif. La Chine et l'Inde ont fait des efforts remarquables. Sur les 200 millions qu'on a sortis des bidonvilles à l'an 2010, la moitié était faite dans ces deux pays-là. Et surtout de la Chine, qui a sorti presque 70 à 80 millions de personnes de la pauvreté. Mais avec une politique agressive, vraiment agressive, d'urbanisation. D'urbanisation des villes, mais aussi d'urbanisation des campagnes en termes d'eau, d'assainissement, d'énergie, de marché. Les fondamentaux dont on devrait retrouver, que ce soit dans les petites villes moyennes, dans les zones rurales, que dans les zones urbaines. Il n'est pas juste simplement d'équiper ces infrastructures seulement pour les villes. Mais je reviens sur cette nécessité absolue d'unir les forces pour arriver à anéantir ce fléau qui est la représentation la plus visible et la plus claire de la pauvreté. Alors, l'autre élément, c'est la formation. Il faut qu'on ait des architectes, des urbanistes, des ingénieurs assez formés. On en a un déficit immense dans les pays en développement. Nous devons former les capacités pour aider les États, aider les collectivités. L'autre élément sur lequel nous devrons beaucoup travailler, c'est sur les mises en œuvre. Il faut mobiliser des ressources internes pour que le partenariat soit plus visible ou soit plus incité. Le fait de se croiser les bras en pensant que les autres vont venir vous régler vos problèmes ne sont pas des attitudes responsables de la part de nos États et de la part de nos villes. Il faut planifier, il faut aussi organiser l'espace. Et quand je dis organiser l'espace, c'est sur les questions foncières. L'un des éléments fondamentaux pour pouvoir régler la question des bidonvilles, c'est que les États acceptent aussi de régler la question des terres, des terrains urbains. Il faut planifier des terrains urbains en quantité nécessaire et en qualité, c'est-à-dire en infrastructure de base, pour permettre à ce que quand les populations arrivent et s'installent, qu'on ne soit pas obligé de faire du rattrapage. Dans beaucoup de pays en développement, on n'intervient pas. On attend jusqu'à ce que vous retrouviez, comme au Kenya, le bidonville le plus célèbre d'Afrique, Kibera. Et ce n'est pas parce que le gouvernement kenyan n'en a pas les moyens. C'est un manque de volonté politique.
Le phénomène de l'exode rural est réel, donc il y a une augmentation continue de ces populations urbaines. Donc comment, d'une part, gérer ces bidonvilles, éviter qu'ils se propagent, qu'ils se répandent trop, mais aussi permettre aux personnes qui sont souvent complètement démunies, où vont-elles loger? Que faut-il faire?
Oui, c'est là où j'ai parlé de cette politique à double détente. À la fois régler le stock, le déficit de bidonvilles, et aussi anticiper. Si vous savez que vous avez une ville qui a une croissance de 3 ou 4% par an. Qu'est-ce qui vous empêche déjà de planifier, même si vous n'avez pas les infrastructures, aménager seulement, en disant, voici les rues qui sont tracées, voici les parcelles, et au fur et à mesure que les gens arrivent, vous les installez. Quand vous aurez les ressources, vous mettrez les routes, vous mettrez l'assainissement. Mais le premier chemin qui assure à ce qu'une ville soit ordonnée, c'est la planification. Il ne faut pas être laxiste ou de refuser de voir la réalité. Quand vous avez une croissance démographique, la ville va augmenter. Naturellement, il faudra aussi densifier. Ne pas laisser la ville s'étendre sur 30, 40 km alors qu'on peut densifier. Une ville doit avoir une très bonne densité sur le plan de la hauteur, sur le plan des infrastructures pour que ce soit compact et pour que les coûts ne soient pas élargis et que la pollution ne se fasse pas. Pour éviter aussi de consommer les terres rurales qui ont besoin d'être protégées pour nourrir les villes. Alors c'est tout cela, la planification urbaine, l'expertise nécessaire pour accompagner la planification des villes est un élément extrêmement important que nous devrons retrouver un peu partout dans le cadre de ces ODD et ça va demander une volonté politique bien assumée à tous les niveaux.
Quand on entend le mot bidonville, on pense à pauvreté, on pense à insalubrité, on pense aussi à la violence. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée de ce que c'est de vivre dans un bidonville en termes de manque d'opportunités ou d'absence totale d'infrastructures ?
C'est une situation terrible. Vous ne pouvez pas imaginer. Je cite le Kenya parce que j'y vis, mais il y en a dans tous les pays africains. Vous allez à Dar es Salaam, vous allez à Kampala, vous allez en Ouganda. Vous allez en Afrique du Sud, Kayelisha, vous allez à Kibera, partout. Ce sont des situations de dénuement extraordinaire. Quand vous allez à Kibera, la plupart du temps, il n'y a pas d'école publique. Les enfants qui vivent à Kibera vont dans des écoles privées, informelles. Parce que c'est dans ces écoles-là que les enfants, s'ils ont la chance d'être inscrits et que leur mère, la plupart du temps, paye un équivalent de 5 dollars par an, par mois, pour que l'enfant puisse être plus ou moins alphabétisé, éduqué. La raison pour laquelle on inscrit ces enfants-là, c'est pour qu'ils mangent. Parce que dans les écoles, il y a des programmes pour les donner à manger à midi, pour permettre à ce que la maman aille chercher du travail à la zone industrielle, en marchant une dizaine de kilomètres le matin très tôt. C'est un phénomène extraordinaire. Et si la maman n'a pas de chance d'être recrutée dans la journée, vous les voyez revenir un peu plus tôt, vers 2h30, 3h déjà, elles freinent le chemin du retour. Si la maman n'a pas été recrutée, le prochain repas de l'enfant sera le lendemain. Aujourd'hui, 1 sur 100 enfants nés dans les bidonvilles a la chance de sortir de cette misère. 1 sur 100. L'autre jour, on discutait dans un autre bidonville qui s'appelle Mataré, à Nairobi. Les enfants ont été obligés de se battre pour avoir un terrain de jeu. Ils aiment tellement le football au Kenya que dans tous ces bidonvilles, il n'y avait pas d'espace de jeu. Tout ce qui est espace est pratiquement découpé en petits lots de zinc et tout pour que les gens puissent avoir. Mais les enfants sont des enfants partout. Qu'ils soient pauvres ou riches, ils ont besoin de jouer. Je cite ces deux exemples parce que ce sont les plus frappants. Mais l'autre qui me vient de l'Afrique du Sud et qui est encore terrible, c'est que pratiquement 25 à 30% des jeunes filles qui vivent dans ces bidonvilles sont violées avant l'âge de 15 ans. C'est extraordinaire. À cause de la promiscuité. La plupart du temps, c'est fait par des gens qu'ils connaissent. Dans ce qu'on appelle les bidonvilles, il y a effectivement une définition à 5 points. Premièrement, la question foncière. Deuxièmement, l'eau potable. Troisièmement, l'assainissement. Quatrièmement, la nature du bâti. Mais cinquièmement, la promiscuité et la densité. C'est 10 personnes qui vivent par chambre. Imaginez-vous dans ces conditions-là, comment est-ce qu'on peut être jeune fille et être sauve avant de pouvoir assumer sa propre responsabilité. C'est une situation indescriptible. Le tamis qui sépare l'environnement du bidonville et l'autre environnement est tellement serré que pour percer, il faut avoir 10 vies il faut être capable de mourir et de renaître et de mourir et de renaître 10 fois pour avoir la possibilité de percer. C'est extraordinaire en termes d'ignorance, en termes de négligence de la part des États. Tout individu qui visite ces sites est tenu par la crasse, la poussière, la difficulté d'existence. On ne te parle pas de santé, d'éducation et tout. Tout ça, ce sont des rêves. Et l'autre élément qui est le plus frappant, c'est que ce sont les femmes qui tiennent la vie dans les bidonvilles. Les hommes sont des géniteurs. Ils partent, ils reviennent. La responsabilité n'est pas assumée. Ce sont des environnements de vie, de survie, je dois dire. Ce n'est pas les ressources qui manquent. Il y a tant d'argent dans le monde. Mais pourquoi ceux-là qui en ont tant ne font pas un peu pour essayer d'éradiquer cette pauvreté crasse? Est-ce que c'est le système du capital qui veut qu'il y ait des gens qui sont dans la pauvreté ad vitam aeternam et qu'il y a d'autres qui en profitent? Dans beaucoup de pays, on ferme les bidonvilles, on fait des murs de la honte pour les cacher, surtout que quand ils sont du côté de l'aéroport et que les visiteurs arrivent et voient cela, ils n'aiment pas. Mais c'est des murs de la honte. Aujourd'hui, les pays du Sud enregistrent des scores de croissance. Il y a des ressources dans le Sud. Il y a des ressources. Mais ce sont des arbitrages, ce sont des orientations, ce sont des ressources à donner pour pouvoir en sortir.
Donc on retourne à la question de la volonté politique, une fois de plus.
Pour moi, c'est l'élément premier et fondamental. Deuxièmement, l'allocation des ressources. Il faut que des ressources soient allouées. Mais sans cette volonté, ça ne peut pas s'allouer. Lorsqu'on a réglé ces deux paliers, venons-en au palier de l'expertise et des connaissances. Il faut que ça se construise. Quatrièmement, sur le plan des ressources, la question foncière. Il faut qu'elle soit mise en place, une politique foncière transparente qui permette à ce que l'on puisse accéder aussi à la terre, même si on est pauvre dans la ville. Vous savez, c'est comme les doigts de la main. L'humanité ne sera jamais égale. Mais chacun de ces doigts a une fonction. Pourquoi est-ce que les gens tournent le dos? Aujourd'hui, de plus en plus, vous retrouvez les gens dans les zones urbaines, la plupart du temps, dans des gated communities. Ils s'enferment. Ils fuient la misère pour s'enfermer. Mais vous savez, ça les rattrape. Parce que l'espace public, on ne peut pas l'abandonner. On y revient. Vous allez vous murer dans votre domaine, les gens vous attendent dehors et vous accompagnent à l'intérieur. Combien de crimes n'ont pas été commis de cette façon-là? À Lagos, à Abidjan. C'est ça la dichotomie d'une ville à deux vitesses, où il y a d'un côté la pauvreté, de l'autre côté la richesse. Il faut avoir ce qu'on appelle des situations intégrées. Vous savez, quand vous vivez avec les pauvres et que vous êtes capable de partager ce que vous avez, on ne dit pas de tout donner, mais que vous êtes capable d'avoir de la sensibilité, vous êtes capable d'avoir de la mansuétude, que vous les soutenez. Ces gens sont votre premier protecteur. Personne ne vous touche. Personne. Parce qu'ils savent qu'ils ont besoin de vous. Et vous, vous avez besoin d'eux. Je ferai un peu de philosophie hegelienne. Mais c'est ça, la convivialité de ce que nous espérons d'une ville conviviale, intégrée, inclusive et sociale et durable.
Et c'est avec Alioune Badiane de Nu Habitat que se referme ce magazine Escale. Je vous rappelle que vous pouvez écouter sur Internet les magazines hebdomadaires, mais aussi le journal quotidien de la radio des Nations Unies en tapant radio.un.org/fr. Merci de votre fidélité et rendez-vous la semaine prochaine.